France Inter.fr.
Voici la revue de presse avec cette semaine Gabriel Pereira. Bonjour Gabriel.
Bonjour à tous.
Dans la presse ce matin, photographie d'un pays désenchanté.
Les Français ne croient plus en l'État-providence. Voilà une véritable révolution culturelle, écrit 20 minutes. Le quotidien gratuit s'est procuré un rapport du CREDOC, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Résultat, de plus en plus de citoyens estiment que la protection sociale est moins essentielle. Exit le collectif pour s'en sortir. Les Français préfèrent compter sur eux-mêmes. Les notions d'égalité, de fraternité sont en perte de vitesse, pas celle de liberté. Elles gagnent du terrain, poursuit 20 minutes. Explication de Sandra Wabian, l'auteur de cette étude. Le chômage et la pauvreté continuent de progresser. L'action de l'État ne semble pas efficace. Du coup, l'idée que les individus, y compris les plus démunis, doivent se prendre en main, se propage. Exemple concret, ce matin, une jeune femme est à la une du Courrier de l'Ouest à Angers. Elle s'appelle Marjolaine, elle est titulaire de deux masters dans l'écologie et l'aménagement du territoire. Elle est brillante et pourtant elle est au chômage. Elle galère depuis 5 ans, raconte le journal. Alors Marjolaine a jeté l'éponge et elle vient de se lancer dans un CAP. La lutte contre le chômage, le point noir de François Hollande. Ce sont les Français qui le disent. Sondage ce matin dans le Figaro. À mi-mandat, c'est la rupture, titre le quotidien. Photographie, là encore, d'un pays désenchanté. Êtes-vous satisfait du président depuis son élection? Les personnes interrogées répondent non à 86%. Et sans surprise, c'est sur la lutte contre le chômage que le taux de mécontentement est le plus fort. Dans ce contexte, 86% des Français ne veulent pas que le président se représente. Alors qui à la place? À gauche, Manuel Valls tiendrait la corde. Martine Aubry, notre invitée ce matin, arriverait juste derrière. Revoilà Aubry, la frondeuse, titre le Parisien aujourd'hui en France. La maire PS de Lille, bien décidée à faire entendre une autre voix, ajoute Libération, celle que réclamaient beaucoup de socialistes. En se livrant dans le JDD à une critique en bloc de la politique économique menée par Hollande, Martine Aubry a franchi un palier. Maintenant, la fronde, c'est elle, écrit Denis Domin dans La Nouvelle République. Si les désenchantés du Parti Socialiste manquaient d'un solide porte-voix, eh bien ils l'ont enfin, juge de son côté Yvarté dans Sud-Ouest.
Dans la presse également, photographie d'une ville assiégée depuis près d'un mois.
La ville de Kobané, dans le nord de la Syrie, dont la prise serait un trophée stratégique pour le groupe État islamique, rappelle le Parisien. Photographie aérienne édifiante à voir sur les sites du New York Times et de Libé. Kobané, les images satellite de l'Exode. Voici deux clichés pris à un poste frontière. À gauche, le 6 septembre, calme plat, rien à signaler. À droite, le 15 octobre, mercredi dernier, on distingue des centaines de voitures massées près de la frontière, des milliers de personnes cherchant à passer de l'autre côté en Turquie. Image symbolique, implacable du martyr de Kobané. Un chiffre, depuis le 16 septembre, la bataille dans cette ville a poussé à la fuite 300 000 personnes, dont plus de 200 000 en Turquie. Kobané et son héroïne, elle s'appelle Narin Afrin, surnommée la Jeanne d'Arc des Kurdes. Son portrait est à lire dans le Figaro. Pas de photographie officielle, cette jeune femme de 35-40 ans est l'icône sans visage du combat pour la défense de Kobané, raconte la journaliste Delphine Minoui. Narin Afrin co-dirige les combattants kurdes des unités de protection populaire, ceux qui se battent depuis un mois contre les djihadistes. Trajectoire fulgurante, elle arrive à Kobané il y a un an après une formation au maniement des armes. Et très vite, son charisme étonne. Narin, c'est le symbole de la liberté, témoigne un combattant. Et son aura dépasse aujourd'hui les frontières de la Syrie. En Irak, elle est citée en exemple de bravoure. Elle incarne le rêve d'un Kurdistan autonome où les femmes seraient plus libres.
Quoi d'autre dans la presse, Gabriel ?
Cette drôle de photo en une du Financial Times. Une nuée de coureurs équipés de masques anti-pollution. Bienvenue au marathon de Pékin, c'était hier. Marathon maintenu malgré un pic de pollution en particules fines dans la capitale chinoise. 400 microgrammes par mètre cube dans certains quartiers, quand le niveau maximum recommandé par l'OMS est de 25 microgrammes. Les autorités ont demandé aux enfants et aux personnes âgées de rester à la maison, mais pas question de reporter la course, trop compliqué selon les organisateurs. La moitié des 25 000 participants viennent d'autres pays ou d'autres régions. Paris, capitale mondiale de l'art, c'est la une du Parisien aujourd'hui en France. La fondation Louis Vuitton est inaugurée ce soir dans le bois de Boulogne par François Hollande, un imposant voilier de verre dessiné par l'architecte californien Frank Gehry. Ce nouveau lieu voué à la création contemporaine constitue un indéniable atout pour Paris, explique Lacroix. Il signe les noces de l'art et de l'entreprise. Le bâtiment a été commandé par Bernard Arnault, le patron du groupe LVMH. Projet pharaonique, le coût final du vaisseau n'a pas été dévoilé, explique Libé, mais il est évalué à 100 millions d'euros. Et oui, c'est comme ça, selon le Parisien, pour rester la ville lumière. Sans doute faut-il se refaire une beauté. Et ça tombe bien puisque la semaine sera également marquée par la réouverture du musée Picasso et de la Monnaie de Paris après des années de travaux. Dans une France désenchantée, le front culturel est le dernier qui résiste. La culture, c'est la marque de notre pays, se félicite Laurent Lebon, président du musée Picasso. Et puis un anniversaire pour terminer, costume grisâtre, épaisse lunettes fumées, allure sinistre d'Eric à 40 ans. La série en tout cas, c'est à lire sur slide.fr. Le 20 octobre 1974, le célèbre inspecteur interprété par Horst Tappert faisait son apparition à la télé allemande. 30 millions de téléspectateurs ce soir-là et pourtant, les critiques n'ont pas été tendres. Le lendemain, Der Spiegel lui reprochait son scénario aussi raffiné qu'un tirage du loto. C'est sûr, ce Derrick ne va pas durer. Et bien finalement, si, 281 épisodes. La série s'est arrêtée quand Horst Tappert a pris sa retraite. Selon le quotidien Der Tagesspiegel, Derrick, avec ses exigences morales et sa profondeur psychologique, est entré dans le cœur des Allemands. Et il est, paraît-il aujourd'hui, plus connu que le pape. Bonne journée.